L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrill.
Bonjour, la parole de Dieu déclare que tu es, je suis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais avant que nous puissions être le temple du Saint-Esprit, il y a eu différents temples et il y a eu différents endroits d'adoration. Le Seigneur nous a établis comme des temples et il veut remplir ces temples, il veut remplir ta vie du Saint-Esprit, afin que tu sois réellement un temple pour lui, un temple d'adoration. Alors on va voir ensemble le parcours de ces lieux d'adoration depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui et à ce qui va être la Nouvelle Jérusalem où là il n'y aura plus de temple, Dieu remplira tout en tous et je crois que tu seras fortifié alors que tu m'écoutes aujourd'hui, que la présence du Saint-Esprit descende sur toi, te remplisse et te fasse réaliser combien ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit sont importants pour Dieu. Il y a 10 jours, vous vous souvenez, donc pas la semaine dernière, mais celle d'avant, nous avons partagé ensemble une émission, un message où je vous ai encouragé à prier pour vos proches et je vous avais dit de prendre un carnet à la maison. Donc si vous n'aviez pas regardé cette émission, je vous encourage dès aujourd'hui à vous procurer un carnet donc spécifique, pas une feuille volante que vous pouvez perdre comme ça, mais si vous ne l'avez pas acheté, un carnet dans lequel vous allez noter le nom ou les noms plutôt de la personne ou des personnes que Dieu vous met à cœur. C'est cette personne qui revient régulièrement, qui n'est pas sauvée et qui revient dans votre pensée, dans votre cœur. Vous sentez un fardeau pour prier pour cette personne et si vous ne faites pas attention, cette personne ne sera pas sauvée parce qu'en réalité, vous avez délaissé le fardeau, vous n'avez pas fait attention et cette chose était importante. Et vous savez, dans la vie, on a des factures et à chaque fois qu'on achète quelque chose, on nous fait une facture. En tout cas, acheter les choses avec facture, frères et sœurs, c'est important d'être intègre. Et quand il y a une facture, eh bien, on fait cette facture parce que derrière, c'est l'argent et en tant qu'être humain, eh bien, on trouve que c'est important de facturer, de noter, de chiffrer tout ce qu'on dépense et tout ce qu'on achète. Mais de la même façon, si c'est important pour nous, si le salut d'une âme est important, on ne veut pas simplement l'avoir quelque part dans le cœur, dans la pensée, mais on veut que cette personne, alors qu'elle est importante et le salut de cette personne, on puisse la noter. Seigneur, tu vas sauver cette personne. Alors, c'est un petit rappel, vous pouvez regarder l'émission dans laquelle on avait prié pour cela vendredi, donc il y a 2 semaines, par rapport à le fait de prier pour cette personne qui est perdue. Et on aura l'occasion de prier pendant plusieurs jours par rapport à ça, afin qu'à la fin du mois, en tout cas des 30 jours, le Seigneur puisse sauver cette personne et ces personnes de façon surnaturelle. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de témoignages pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai trouvé bon de faire un parcours de ce que j'ai appelé les 12 lieux d'adoration dans la Bible. Premièrement, le premier lieu, c'est clair, c'est le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève voyaient Dieu face à face. La parole de Dieu nous montre que l'Esprit de Dieu parcourait le jardin. Il descendait comme la brise du matin où il venait et là, il parlait à Adam et Ève qui communiaient avec Dieu, le voyant face à face, sans aucun obstacle, sans aucune limitation. Il le voyait comme un ami, il lui parlait comme un ami. Il y avait une communion parfaite, extraordinaire, là dans le Jardin d'Éden. Et on sait qu'ils vont pêcher et ils vont s'attacher des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Dieu va faire le premier sacrifice animal qui était une préfiguration de Christ et il va les couvrir de cette peau. Il va devoir, pour leur protection, les chasser du jardin afin qu'ils ne meurent pas éternellement. Et là, chassés du jardin, ils vont perdre leur extraordinaire communion avec Dieu. C'était le premier lieu d'adoration dans ce jardin, où ils voyaient Dieu face à face, où ils le connaissaient de manière très particulière, où ils étaient dans une communion parfaite avec celui qu'ils avaient créé. Il y a un deuxième lieu d'adoration au moment où le petit-fils d'Adam va naître, donc non pas Abel et Caïn, mais son petit-fils. Il est écrit quoi ? On commença à consulter l'Éternel. Là, il y a comme entre guillemets un deuxième lieu d'adoration. On va commencer à consulter l'Éternel. Alors, ceux-là qui vont consulter l'Éternel ne connaissaient pas Dieu comme l'ont connu Adam et Ève. C'était donc une connaissance qui venait à travers l'instruction de ce que Adam et Ève ont pu partager, etc. Et alors, ils ont commencé à consulter l'Éternel, un Dieu qu'ils n'avaient jamais vu, un Dieu lointain, et la foi, quelque part, est née dans leur cœur. Ils ont commencé à consulter ce Dieu qu'ils ne pouvaient pas voir. Troisièmement, on voit Noé qui va sortir de l'arche. Dieu le protège avec sa famille, et je prie qu'avec ce carnet, Dieu puisse, à travers vous, vraiment vous amener à créer cette arche de salut dans votre maison pour prier en faveur de cette personne, et que ces gens qui sont dans votre famille, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, puissent être sauvés. Donc, Noé sort de l'arche et là, Noé va faire quelque chose de spécial. Il sort de l'arche et il va construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Cet autel, vous savez, c'était juste quelques briques comme ça, avec un creux à l'intérieur. C'est un simple autel de pierre simplement. Et là, il va offrir un sacrifice. Et Dieu va sentir comme une odeur agréable. Ce n'était pas l'odeur de la bête, de l'animal qui était en train de cuire, mais c'était l'odeur du cœur de ce serviteur, de cet enfant de Dieu, en tout cas de Moïse, de Noé, pardon, qui était là et qui offrait ce sacrifice à Dieu. C'était une odeur agréable pour Dieu, une odeur d'adoration. Donc Noé va prendre va faire ce pas d'offrir un sacrifice à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu va faire une résolution, il va prendre une résolution de ne plus jamais détruire les êtres vivants comme il l'a fait. À travers ce sacrifice, il se passe quelque chose entre le ciel et la terre, entre Dieu et Noé, au point où Dieu est touché, son cœur est touché par l'adoration et il dit « Je ne détruirai plus l'être humain comme je l'ai fait avec donc le déluge ». Ensuite, après Noé, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Moïse qui vont dans leur vie construire régulièrement ce genre d'autel au cours de leur vie en l'honneur de l'Éternel. Puis, quatrièmement, après la sortie d'Égypte, cette fois-ci Moïse, Dieu va appeler Moïse plusieurs fois au sommet de la montagne. Et là, au sommet de la montagne, Moïse va vivre des choses extraordinaires. Pendant que le peuple était là en bas, lui, il vivait la gloire de Dieu sur la montagne. Il va, par exemple, jeûner sans boire ni manger. C'est un jeûne surnaturel, unique, pendant 40 jours, là, en haut, sur la montagne. Voilà un quatrième lieu d'adoration sur la montagne. Donc, on a, à partir du péché, cet autel qui est fait de sacrifices, Dieu est touché, il y a quelque chose de spécial. Mais maintenant, c'est le sommet de la montagne, mais c'est réservé à un homme. Et là, qui vit la gloire de Dieu, c'est vrai, mais juste un homme, et c'est juste pendant quelques jours. Alors, il va y avoir une cinquième étape. Dieu va il va s'adresser à Moïse pour qu'il fabrique ce qu'on appelle la tente de la rencontre. On en parlera cette semaine, le tabernacle. Et donc, ce tabernacle qu'on va utiliser pendant 400 ans autour de ce tabernacle, comme vous le voyez sur la photo, ici on ne le voit pas, mais il y avait un campement tout autour. Ici on voit le tabernacle avec le parvis, on en parlera, et avec les pans qui étaient là, les rideaux qui cachaient donc le tabernacle du reste du camp. Et autour de ce camp, dans le camp, vous pouvez imaginer qu'il y avait plusieurs millions de personnes, donc hommes, femmes et enfants qui étaient là autour, et tout était autour de cette tente de la rencontre. Tout le camp, j'allais dire le village, tout le camp, tout le campement était autour, donc autour de cette tente de la rencontre. Et là, dans cette tente de la rencontre, il y avait plusieurs endroits. Il y avait donc le parvis, puis il y avait le lieu saint, et il y avait également, là on peut voir le lieu saint avec les pains de proposition, avec le chandelier à gauche. On voit aussi donc l'autel de l'encens ou des parfums, et vous allez voir donc au fond donc le rideau très épais. C'est ce même genre de rideau qui a été déchiré quand Christ est mort, et ce rideau a été déchiré du haut vers le bas par Dieu. On aura l'occasion d'en reparler. Et derrière ce rideau se trouvait le lieu très saint. Et là, on trouvait dans ce lieu très saint, voilà, l'arche de l'Alliance. Et donc, dans ce tabernacle, on a vu dans la première partie, il y avait l'autel des holocaustes. Et là, chaque matin et chaque soir, il devait avoir un sacrifice. Les lampes également, elles devaient brûler constamment du soir au matin. Et Dieu dit que c'est là qu'il rencontrera les Israélites. Et dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur qui ne pouvait aller qu'une seule fois par an, Eh bien, là, Dieu le rencontrait de manière extraordinaire. C'était un face-à-face avec Dieu. Mais dans le parvis, les hommes amenaient un sacrifice, comme auparavant dans un petit autel ici. Il y avait tout un culte qui était mis en place. Et si Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse vont au départ construire leurs autels seuls et ils vont faire leur sacrifice d'adoration à Dieu en tant que sans l'aide de personne, ici Moïse va avoir besoin pour la fabrication, la construction de cette tente de la rencontre de beaucoup, de plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Et les gens vont offrir des offrandes pour l'or, etc. et pour les différents matériaux de cet autel de la rencontre qui pesait des dizaines, peut-être centaines, dizaines en tout cas de kilos. Certains pensent que ça allait même jusqu'à 1000 kilos ou une tonne, etc. Mais en tout cas, voilà le cinquième lieu d'adoration. Ensuite, il y a le sixième lieu d'adoration. Et le sixième lieu d'adoration, vous vous souvenez, Samuel est là et il y a un sanctuaire. Il y a un sanctuaire donc, où le jeune Samuel va grandir auprès du sacrificateur Élie. Et on se souvient bien sûr de ses paroles, Samuel, Samuel, Dieu qui parle par trois fois au jeune Samuel et qui doit ouvrir, fermer les portes de ce lieu particulier, ce sanctuaire. Et à chaque fois que je pense à ça, je me dis, j'aurais aimé à l'époque être Samuel là dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu et pouvoir entendre la voix de Dieu, quelque chose de spécial. Et là aussi, c'était donc un nouveau lieu d'adoration. Il y a ensuite le septième lieu d'adoration, donc 480 ans après la sortie d'Égypte, on va utiliser la tente de la rencontre pendant donc longtemps et 70 ans après la fin d'utilisation de la tente de la rencontre, il va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle le temple de Salomon. Salomon va faire construire un temple et cette fois-ci, contrairement à la tente de la rencontre où c'était plusieurs dizaines, peut-être centaines de personnes qui ont participé, ici on va avoir besoin de 200 000 hommes. Et quand dans la tente de la rencontre c'était plusieurs dizaines ou peut-être bon, on va dire une tonne, même jusque-là, ici c'est beaucoup plus que cela. Puisque ça va être 640 tonnes d'or qui vont être utilisées pour construire le temple de Salomon. Et il va tout couvrir d'or pur et la maison tout entière, l'autel, etc. Et il est écrit à la fin, vous vous souvenez, que la nuée va remplir la maison de l'Éternel au point où les sacrificateurs ne purent pas y rester tellement la gloire de Dieu était là, la nuée était là et la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. Et vous allez voir là où je veux en venir. Et le huitième lieu d'adoration, après le temple de Salomon, pendant un temps à l'époque de Zorobabel, il va avoir le second temple de Jérusalem. Et dans le second temple de Jérusalem, qui va être reconstruit donc sur l'ordre de Dieu, il va être construit sur les fondations du premier temple et il va respecter un peu donc le même culte qu'on retrouvait au tabernacle. Neuvièmement, et là on retrouve maintenant le temple d'Hérode. À l'époque du Seigneur Jésus et des disciples, on retrouve le temple d'Hérode qui était en fait une extension du second temple. Et Jésus dit, et il nous montre que ce temple était rempli de voleurs. On voit que Jésus va se fâcher parce que dans ce temple, au lieu que ce soit une maison de prière, c'est un temple de voleurs. Et Jésus va annoncer à ce moment-là, à l'époque du temple d'Hérode, que Dieu le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est une nouvelle révélation. Jésus-Christ, et d'ailleurs Jean-Baptiste qui a été appelé non dans le temple, mais à l'extérieur du temple, dans les déserts où les foules venaient à lui, et de la même façon Jésus, mais lui aussi pouvait aller par contre dans les temples. Mais Jésus est en train de dire quelque part, mais il y a un nouveau temple, il y a une nouvelle façon d'adorer, et Dieu cherche non pas un temple fait avec des mains d'hommes, ce n'est pas l'or que Dieu cherche, mais c'est les cœurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le Seigneur sait bien depuis bien longtemps que là, dans les différents temples, il y a des voleurs. Il y a une religion qui s'est installée. Les hommes ont pris le dessus sur Dieu. Dieu est tellement invisible, il est tellement caché parce que les hommes ont pris la place de Dieu et l'adoration à Dieu est devenue finalement une espèce d'idolâtrie humaine où les uns les autres font leurs choses, etc. Ils rajoutent Dieu là-dedans. Mais ce n'est plus une maison de prière. Et dixièmement, qu'est-ce qui va se passer après la mort du Seigneur et à sa résurrection? Dans Jean chapitre 20 et au verset 22, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va souffler sur les disciples, littéralement en les disciples qui vont naître de nouveau, et il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et là, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, là, dans cette petite maison. Ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent le temple du Saint-Esprit. Onzièmement, on retrouve les disciples réunis dans la chambre haute. Ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. Mais non seulement maintenant, on va les retrouver dans la chambre haute, mais il est écrit dans les Actes des Apôtres qu'ils priaient, ils adoraient en tout lieu. On les voit en tout lieu. Même lorsqu'ils vont être dispersés à cause de la persécution, ils continuent de servir le Seigneur, ils continuent d'être les temples d'adoration pour Dieu. Et douzièmement, j'en ai parlé en introduction, il y aura là, au ciel, donc dans la Nouvelle Jérusalem en tout cas, qui va descendre du ciel, il n'y aura plus de temple, parce que Dieu remplira tout en tous. Alors, mes frères et mes sœurs, comme Étienne a pu parcourir un peu l'histoire du peuple d'Israël pour arriver à cette conclusion, en disant à ceux qui l'écoutaient, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Tout ce parcours du peuple d'Israël dans la bouche d'Étienne n'avait que pour but cette conclusion que ceux qui l'écoutaient avaient le cœur incirconcis et ils s'opposaient à la personne du Saint-Esprit qui est Dieu. Aujourd'hui, à travers ce parcours des différents lieux d'adoration, le Seigneur veut nous rappeler que le but de nos vies, le but de l'Église, l'Église ne devra avoir que pour but final que le Seigneur vienne y résider et nous sommes devenus des pierres vivantes, un temple d'adoration. Et aujourd'hui, Dieu cherche des adorateurs, des gens qu'il adore en esprit et en vérité. Et je veux vous encourager, si votre vie est devenue comme le temple d'Hérode, rempli de voleurs, vous vendez, vous achetez, vous faites vos affaires, même religieuses. J'entends parfois, et à chaque fois, c'est bien sûr un choc terrible, des hommes, des femmes qui ne sont pas nés de nouveau et qui font des choses, qui font des vols, la cupidité dans l'église, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ils pensent que c'est Dieu même parfois. Mais parfois, il y a des vols. Certains vont voler des offrandes. Certains font des choses tellement bizarres et étonnantes qu'on trouve dans l'Église avec un grand E. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est important, on peut regarder ces choses et être choqué. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, il devrait avoir une ferveur. Vous voyez, dans le tabernacle, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Et il y avait le lieu très saint. Le parvis représente notre corps, on en parlera un peu plus. Le lieu saint représente notre âme et le lieu très saint représente notre esprit, notre cœur, là où Dieu habite. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur et si tu lui as donné ta vie, si tes péchés ont été pardonnés, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et il faut que ce temple soit rempli de la présence de Dieu. Que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19? Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, ça veut dire l'ensemble, le corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et il conclut, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'aimerais aujourd'hui t'encourager. Par rapport à ton corps, par rapport à ta vie, tu dois être pour Dieu un temple d'adoration. Tu dois être pour Dieu ce temple saint, non pas comme le temple d'Hérode, là où il y avait des voleurs, là où finalement on ne respectait pas le but même de ce temple. Ton corps ne t'a pas été donné pour manger, pour avoir des plaisirs, pour faire des choses. Mais ce corps nous a été donné avant tout pour être un temple, le temple du Saint-Esprit. Nos membres, nos pensées, notre esprit, notre corps en entier doit servir à la gloire de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi aujourd'hui. Tu peux déclarer après moi, Dieu, je te demande pardon parce que il y a certainement dans ma vie des choses qui te déplaisent. Et s'il y a dans ma vie des choses qui ont pris ta place, s'il y a dans mon corps, dans mes pensées, dans ma vie, des voleurs, si le temple du Saint-Esprit que je suis est devenu une caverne de voleurs, si des choses dans ma vie ont pris ta place et la place de l'adoration, je te demande pardon. Et je déclare aujourd'hui que je suis le temple du Saint-Esprit. Je déclare que je suis rempli par l'Esprit de Dieu. Mon corps se soumet à la volonté du Père. Mon corps est cette tente de la rencontre où je peux rencontrer chaque jour mon Dieu. Dieu habite dans mon esprit. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Déclare-le avec moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un serviteur pour Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je suis un autel d'adoration. Ma vie doit servir à la gloire de Dieu. Ma vie doit refléter la gloire de Dieu. Je veux vivre non seulement dans le parvis, non seulement dans le lieu saint, mais je veux entrer dans le lieu très saint. Car je suis devenu un lieu très saint pour Dieu. Mon corps est devenu un lieu très saint pour Dieu. Car j'ai été scellé par le Saint-Esprit. Je veux vivre dans le lieu très saint. Là où ta gloire habite. Père, je veux vivre dans le lieu très saint. Là où ta gloire habite, je suis devenu un lieu très saint pour toi. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs que ta présence les remplisse et les inonde. Je prie qu'au-delà de mes mots, Père, tu puisses leur donner une révélation nouvelle sur le temple qu'ils sont. Père, ils ont fait des autels. Ils ont voulu t'adorer. Noé a voulu t'adorer avec ce petit autel de pierre, t'offrir un sacrifice. Et tu trouvais cela agréable. Et tu as été touché par le cœur de Noé. Et tu as appelé Moïse, Seigneur, avec cette tente de la rencontre. Il t'offrait des sacrifices chaque jour, le matin, le soir, le boule parfum, le chandelier qui brûlait constamment. Et une fois par an, le souverain sacrificateur qui allait dans le lieu très saint. Et Père, tu as déchiré le voile qui nous séparait de ce lieu très saint. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir déchiré le voile qui me séparait de toi. Je suis un temple d'adoration. Déclare-le avec moi. Je suis un temple d'adoration pour Dieu. Viens purifier le temple que je suis. S'il y a dans ma vie des ténèbres, s'il y a dans ma vie des voleurs, s'il y a dans ma vie comme dans le temple des tables qui sont là, où on marchande, où on vole, où on est cupide, où on manipule, où on trompe, où on triche, où on vole ta gloire, que ces choses s'en aillent de moi. Je suis un temple d'adoration. Alors mon frère, ma sœur, commence à adorer alors que tu es ce temple. Adore-le. Glorifie le Seigneur. Que tes yeux se tournent vers lui maintenant en adoration. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es saint, précieux Jésus-Christ. Précieux Seigneur, je veux me consacrer à toi. que tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable, pur pour toi. Je t'adore, Seigneur, que ma vie, que mon corps serve à ta gloire, que mes membres servent à ta gloire. Présente tes mains au Seigneur maintenant et dis-lui, Seigneur, voici mes mains. Que mes mains puissent te servir, que mes mains puissent te célébrer, que mes mains puissent servir à ta gloire, que mes mains soient comme tes mains, que mes mains soient purifiées, que ces mains puissent faire le bien, que ces mains puissent donner, que ces mains puissent aider, que ces mains puissent faire du bien, que ces mains puissent être des mains de tendresse, des mains d'affection, des mains pures. Qu'il en soit ainsi, Père, que mon corps, que ma vie, que mon âme servent à ta gloire, que mes pensées servent à ta gloire, que mes pensées soient le reflet de tes pensées. Je veux penser comme tu penses par rapport à mon travail, par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, par rapport à tout ce que tu m'as donné, par rapport à tout ce que je dois faire, par rapport à tout ce que je vois, que mes yeux puissent servir à ta gloire, que mes yeux se détournent du mal et que mes yeux puissent se tourner vers toi, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur puisse vous toucher là où vous vous trouvez. Que vous soyez aujourd'hui dans un petit village, que vous soyez aujourd'hui en plein cœur de Paris, à Kinshasa, Douala, que vous soyez quelque part, dans une capitale, une grande ville, ou un petit village, une rue perdue, que votre corps puisse servir à Dieu et être un temple d'adoration. Alors que plusieurs, vous avez votre carnet avec vous, j'aimerais que vous puissiez maintenant prier pour ces personnes que vous avez notées. Père, nous prions maintenant et nous réclamons le salut pour ces personnes perdues. Père, nous prions pour elles. Viens les sauver. Viens te révéler à elles. Alors, Père, qu'elles sont encore dans les ténèbres, alors que leur vie est encore semblable à cette caverne de voleurs, alors que leur corps devrait servir à ta gloire, tu les appelles à être un temple d'adoration. Et aujourd'hui, Seigneur, ils ne te servent pas, ils sont remplis dans les ténèbres, de ténèbres, ils sont enténébrés. Mais nous prions, Père, que ta gloire, Seigneur, jaillisse, que le chandelier puisse les éclairer et qu'ils puissent manger le pain de vie. Nous prions, Père Céleste, pour que tu ouvres leurs yeux et qu'ils soient sauvés. Viens la sauver, viens le sauver, ouvre ses yeux, je t'en prie, Père Céleste, et qu'elle puisse devenir un autel d'adoration. Qu'elle puisse devenir, Seigneur, un temple pour toi, comme tu l'as fait avec les disciples. Jésus, viens souffler en eux ton esprit. Viens souffler en eux ta vie et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils deviennent un temple saint pour toi. Au nom de Jésus-Christ, appelle-les maintenant par leur nom. Devant le Seigneur, déclare, Seigneur, cette personne est sauvée. Nomme-la par son nom. Et présente-la au Seigneur maintenant. Merci pour son salut. Merci pour le salut de cette personne. Qu'elle soit sauvée au nom de Jésus. On se retrouve demain, on continuera à parler du tabernacle, la présence de Dieu.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.